Judaïka, 90.2 FM.
Venez, venez, entrez. Le Judaïka Culture Club a ouvert ses portes. Non, pas comme tous les lundis, puisque la situation est particulière, notre émission est un peu particulière aussi. Mais nous avons pensé que quand même un peu de culture et un peu du fait de se changer les esprits pouvait nous aider à être mobilisés le reste du temps pour tout ce qui nous tracasse pour le moment et toute cette situation. Alors, nous avons en plateau 3 invités et par Skype encore un 4e invité. D'abord, Joël Diana, bonsoir pour la tricoterie. Bonsoir. Voilà, et son programme. Alors, on aurait pu faire, d'ailleurs, il faudrait une émission de radio uniquement pour ce qui se passe à la tricoterie, non? Ce serait sympa.
C'est une bonne idée.
Parce qu'il y a une centaine d'événements, quelque chose comme ça, dont on va vous parler ce soir. Hein, donc, l'émission dure 3 heures. Alors, ensuite, très heureux de recevoir Fran Kourouma. J'ai bien prononcé le nom? Voilà, bonsoir pour votre spectacle, oui, votre pièce de théâtre qui vient d'un livre que vous avez écrit vous-même, donc Notre Soleil, qui raconte votre parcours incroyable. Depuis où ?
Donc vous êtes depuis la Guinée jusqu'en Belgique.
Jusqu'en Belgique pendant 2 ans, que vous avez écrit sur votre téléphone, c'est ça ?
Oui. Voilà. Bonsoir.
Bonsoir. Et enfin, donc Alexis Van Stratum, bonsoir.
Bonsoir.
Pour Les brouillons intimes, qui parle de relations dans des ateliers d'écriture.
Absolument.
Et nous aurons par Skype Jean-Philippe Daguerre. Alors Jean-Philippe Daguerre, c'est un auteur, un acteur et un metteur en scène multi-moliérisé. Je ne sais pas si le mot existe.
Maintenant, oui.
Voilà. Et il vient en tout cas nous parler du voyage de Molière qu'il a co-écrit et qu'il a mis en scène et que vous pourrez voir à Volubilis le 19 et le 20 octobre. Et comme introduction, j'ai demandé à mes invités de lire avec moi un petit conte, juste un conte. C'est pas politique, c'est pas... Mais voilà, j'ai trouvé ça assez joli et je vais commencer. Puis chacun lira son petit morceau. Voilà, Jean-Louis Schneider. C'est un conte de Noémie Sinclair. Jean-Louis Schneider se cachait dans une mansarde au 8e étage du 16 rue de la Paix, à Paris. De tout en haut, il pouvait contempler la circulation de Paris et s'il voulait, il pouvait voir l'opéra. Mais il ne voulait pas se pencher pour ne pas être vu. L'hiver était rude cette année-là et ça faisait 4 ans qu'il attendait le débarquement des Alliés. Cette mansarde au 8e étage de la rue de la Paix était son dernier refuge. Auparavant, il était caché chez un vieux colonel français, mais l'endroit était devenu dangereux. On avait arrêté chez les voisins toute une famille juive. La mansarde était tout à fait nue. Il y avait là un matelas, c'est tout, qui lui servait de couche et une vieille caisse qui lui servait de table de chevet. Luxe suprême, il possédait également une pipe en bois. Quelquefois, l'homme qui l'avait sauvé lui apportait un peu de tabac. Mais Jean-Loup avait pu garder sa boîte de couleurs et ses pinceaux, car il était peintre. Cependant, il ne possédait aucune toile et pas le moindre carton.
Beaucoup de jours avaient passé ainsi. Mais un jour, un rayon de soleil annonça l'arrivée du printemps et l'homme qui avait caché Jean-Loup Schneider lui apprit que la radio de Londres promettait un débarquement pour l'été. Il s'agissait de tenir encore quelques mois. Alors Jean-Loup réagit, il se leva de sa couche, ouvrit sa boîte de couleurs, caressa les pointes douces de ses pinceaux et regarda les murs nus. Les murs étaient passés à la chaux blanche, un fond idéal pour un peintre. Jean-Loup demanda à son sauveur de lui procurer un peu d'essence à défaut de térébenthine. Et tous les jours qui le séparaient du débarquement, il peignit quelque chose qu'il voulait voir se réaliser. Il peignit d'abord un chemin. Le chemin menait vers le Havre. Ensuite, il peignit la mer et sur la mer, un bateau. Ensuite, il peignit une mouette, signe de liberté, car elle va partout. Et ensuite, il se peignit lui-même sur le bateau. et tous les jours, il ajouta quelque chose. D'autres voyageurs, d'autres bateaux, d'autres mouettes. Ensuite, il peignit une grande ville blanche dont il avait entendu parler. Elle se trouvait en Palestine et s'appelait Haïfa. Elle était toute en colline. Un temple aux coupoles d'or la dominait. Il peignit même les fleurs du temple.
Son sauveur pénétra un jour dans la mansarde du peintre juif, s'assit sur la caisse. Jean-Loup lui expliqua son tableau, même la nouvelle route qui serpentait à travers des dunes et des sables en longeant Tel Aviv, vers une autre ville perchée assez haut. Il y avait de nombreux tournants pour y parvenir. « Où mène ce chemin ?» demanda son sauveur. « Vers Jérusalem, l'Éternel, » dit le peintre. Et il acheva les remparts de Jérusalem tels qu'on les écrivait dans la Torah. Il peignait jour et nuit, comme possédé par un pressentiment. Il fallait terminer l'œuvre avant qu'il ne fût trop tard. Trop tard ? Pourquoi ? Allait-il mourir ? Lui fallait-il retourner vers le mont des Oliviers où étaient enterrés ses ancêtres ? Quelque chose lui disait qu'il fallait faire vite. Aussi négligea-t-il de donner du relief aux grosses pierres du mur de l'ouest, dit mur des lamentations. Au fur et à mesure que son œuvre avançait, son cœur battait de plus en plus fort. Il se peignit devant le mur avec son châle de prière et sa calotte sur la tête. Il ne resta que peu de peinture pour achever son œuvre, juste assez pour qu'il puisse finir. Un tube de blanc d'argent et un tube de terre de sienne. Épuisé par les nuits d'insomnie, il peignit quand même une maison, sa maison, à Jérusalem, face au mur. Mais il n'eut pas la force de la terminer. Il savait cependant que cette porte, que de cette porte pardon, dépendait son destin.
Jean-Loup Schneider savait que son destin s'achevait. Soudain, il entendit freiner plusieurs voitures. Des cris gutturaux, la voix de son protecteur, et un bruit de bottes qui se rapprochait de plus en plus de sa chambrette. Il savait qu'il avait été dénoncé, que la Gestapo était venue le chercher. Il entendit des coups violents marteler sa porte. Alors, il se précipita sur ses pinceaux. Choisit le plus gros, le trempa dans le peu d'essence qui lui restait, et pendant que les Allemands essayaient d'enfoncer sa porte, il peignit le portail de sa maison céleste de Jérusalem. Il l'ouvrit et le referma derrière lui. Quand la Gestapo pénétra dans la mansarde du peintre juif, elle ne trouva qu'un matelas à côté duquel fumait une pipe. Nulle trace du jeune homme, nulle trace d'une œuvre si belle qu'elle ne pouvait être inspirée que par Dieu.
Voilà, c'est tiré donc de Contes juifs de Noémie Sinclair Carbine.
Bravo.
Ça donne bien.
C'était terrible.
Oui, c'est émouvant, je trouve. Voilà, on va passer sans transition, comme disent les grands journalistes, à la tricoterie. Alors la tricoterie, on peut juste rappeler pourquoi ça s'appelle la tricoterie.
Alors on voulait garder dans notre nom la référence à un atelier, puisque ce bâtiment a toujours été une usine, une fabrique. On l'appelait tricoterie parce que notre projet, c'est de créer du lien social. Mon compagnon Xavier Campion et moi, on a créé ce lieu parce qu'on est tous les deux très touchés par l'isolement social et on s'est un peu promis dans nos parcours professionnels de mettre nos compétences au service d'un projet qui rassemble les gens. Et donc voilà, on a imaginé ce mot tricoterie, fabrique de liens, dans l'idée du fil conducteur, du lien, du métissage.
Voilà, tricoter des liens entre les générations, entre les religions, entre les classes sociales,
bien
entre
sûr.
Tout. On peut dire où ça se trouve ?
Ça se trouve à Saint-Gilles, à la rue Theodor Voragen.
Alors, tout près de la place où c'était chaud hier.
C'était chaud hier.
Mais c'est l'ambiance. D'accord. Alors, ça vient de s'étendre, c'était déjà énorme, et maintenant, il y a combien de mètres carrés ?
On est presque à 2000 mètres carrés.
Voilà, c'est un lieu exceptionnel. vraiment. Avec combien de salles, alors combien
Il
de
y a 8 salles différentes et 99 portes. Je le dis parce que ça m'a fait rire. Donc voilà, on a 8 salles et 99 portes.
Ben, c'est le titre d'un livre, hein, mais 99 portes. C'est magnifique. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer dans les activités. Jusqu'à présent, c'était facile. Tout se passait le dimanche et le lundi, puisque vous avez, on va dire, un modèle économique qui fait que vous gagnez des sous du mardi au samedi. Mm-hmm. Et puis je ne sais pas si le dimanche et le lundi ne sont pas bénéficiaires, mais en tout cas, ce n'est peut-être pas le but premier.
La culture est rarement profitable, ouais, en tout cas. Dans, et nous, en plus, on n'a pas de subvention structurelle. Donc, c'est vrai qu'on a imaginé un modèle économique basé sur l'organisation d'événements et l'horeca, toujours dans un esprit durable. Donc, on a un traiteur durable, on a une organisation d'événements où on remet du sens dans nos pratiques. Et tout ça se met au service de la culture et de notre projet de cohésion sociale.
Voilà, et ce n'est pas des mots, hein, c'est vrai. C'est-à-dire que vous pouvez refuser des locations pour des entreprises que vous ne trouvez pas assez éthiques pour, d'après vos valeurs. Oui. Et donc, pour ça, vraiment, chapeau. Alors, ça s'est étendu un petit peu. Hein, ça a commencé par les vendredis soirs. Et puis maintenant, avec la nouvelle salle, il y a aussi du théâtre. Et donc, il y a des concerts et du théâtre d'autres jours. Donc, il va falloir regarder le site. Pointons quelques événements. Alors, il y en a un qui m'a particulièrement touchée, donc c'est le Bab Zouz, c'est ça ?
Exactement.
Voilà, qui est une chorale juive, arabe.
C'est ça, exactement.
Donc, qui a déjà eu lieu, donc comment ça s'est passé ?
Donc, il y a déjà eu deux moments séance, de chorale, oui. Voilà, c'est tous les deux semaines. Il y a une prof qui est extraordinaire, qui s'appelle Leïla Amézian. Et en fait, pour la petite histoire, on organise depuis 10 ans... 2-3 fois par an, des couscous séfarabes, donc dans l'idée de mélanger
séfarabes,
séfarabes, voilà, de mélanger juifs et arabes, puisque voilà, c'est un de nos sujets auxquels on accorde beaucoup d'importance. L'idée, c'est de manger un couscous, de faire le pari qu'on est capable de manger. Et donc, il y a de la viande cachère halal, et puis advienne que pourra, il y a des moments de concert. Et au fil de ces éditions de couscous, on s'est rencontrés avec un petit groupe de femmes, et donc au départ, on a juste fait un repas pour passer du temps et apprendre à se connaître. Et de là est née l'envie de chanter ensemble et donc de refouiller dans ce
répertoire,
cet héritage, oui. Voilà, judéo-arabe qui est très riche musicalement. Et donc Leïla Amézian est une de ces femmes. Et donc elle, par ailleurs, elle mène beaucoup de chorales. Et donc elle s'est proposée pour donner cours. Et donc concrètement, là, on est 50 à s'être inscrit à ces moments. Donc c'est déjà très beau. Et donc, on aborde des chants différents d'un dimanche à l'autre. On travaille vraiment, elle explique.
Donc, tout le monde chante, hein, le public chante, c'est ça, en
c'est
fait.
Ça,
on s'inscrit et on vient et on chante.
Exactement.
On chante à 5 ans, donc si c'est faux, on n'entend pas. Hein.
Elle nous apprend, elle décortique vraiment chaque mot. Et puis, donc, c'est assez drôle, les deux premiers étaient en arabe. Donc, voilà, moi, j'ai répété une journée pour prendre une demi-strophe. Mais c'est intéressant, c'est hyper touchant, puisque pour beaucoup, on a choisi d'être là. Voilà, moi, c'est mon héritage aussi. Donc, chanter dans la langue de mes grands-parents, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et donc, voilà, et on se retrouve à travers juste l'idée de nouveau, quelque chose de tout simple, de chanter ensemble. Et
donc, le prochain a lieu ce dimanche.
Exactement.
À quelle heure ?
C'est de 16 à 18.
Ah oui, voilà. Voilà.
Ouais.
Alors, de quoi on a envie de parler encore dans tout ça ? Alors, moi, j'ai un chouchou. Enfin, non, j'en ai deux, puisque j'aime le théâtre et que maintenant, il y a de plus en plus de théâtre. On va en parler. Mais moi, j'aime beaucoup le lundi soir, les scènes ouvertes.
Ouais.
Donc, qui donne la possibilité à chacun de faire, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais tout ce qu'on veut. C'est-à-dire chanter, danser, réciter, jouer. Il y a pas mal de musique, hein, on va dire. Et donc, ça commence par des solos, enfin ceux qui veulent, et puis petit à petit, ça, ils se mettent à deux, à trois, et puis ça finit, je ne sais pas comment, parce que ça finit tard, et je reste jamais jusqu'au bout. Mais donc voilà, ça c'est un endroit, et l'entrée est gratuite, on paye son verre, on boit un verre, on boit, on paye son verre, un prix très démocratique, et puis on peut passer toute la soirée.
Exactement.
Ça continue, là, c'est la quantième année, là.
C'est là, ben, on vient de fêter nos 10 ans. Et donc, ça fait 10 ans que le Café des Tricoteurs, où il y a cette scène ouverte, c'est très beau parce que, de nouveau, c'est la rencontre. On fait d'abord attention aux musiciens qui sont en face de nous avant de se dire, tiens, d'où il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il gagne. Enfin, et donc, c'est un peu des prétextes à la rencontre. Mais c'est vrai que là, c'est très beau parce que ça se fait de façon très fluide, très naturelle. On apprécie un saxophoniste, un pianiste. Et donc, les gens se mélangent. Et c'est vrai que c'est très beau. En plus, il y a un public qui est chaque fois là. Donc, pour les musiciens, c'est aussi gai de...
De plus en plus grand. D'ailleurs, la salle est de plus en plus grande, non ? Vous changez
de
salle.
On a changé de salle.
Oui, c'est ça, parce qu'il fallait de la place.
Ouais, exactement.
Alors, après, qu'est-ce qu'on a envie de pointer encore ? Du théâtre, peut-être ?
Il y a du théâtre, effectivement, il y a une grande saison. Alors, comme je disais, on n'a pas de subvention structurelle, donc on essaye des choses sans aller au-delà du rythme possible pour nous. On accueille du coup pas mal de lectures-spectacles, donc c'est très chouette, parce que ce sont des projets, et donc des prémices de projets qui seront sans doute créés dans d'autres lieux. Donc il y a pas mal de lectures-spectacles. Il y a aussi des conférences gesticulées, qu'on porte depuis presque un an maintenant. Donc c'est un mélange entre le savoir chaud et le savoir froid, donc le savoir froid universitaire, littéraire, et le savoir chaud, le vécu de là où le conférencier. C'est très chouette, c'est aussi interactif. Et dans tout ce qu'on propose, il y a ce qu'on appelle la troisième mi-temps, donc c'est-à-dire qu'il y a, il y a du contenu qui est donné. On essaye après de donner la parole aussi aux gens qui ont assisté au spectacle, pour briser un peu les frontières entre artistes et public. C'est aussi une de nos missions. Et puis il y a pas mal de spectacles, des vrais spectacles là, qui sont plutôt autour du témoignage, du récit de vie. C'est aussi une de nos missions, c'est d'essayer de raconter des histoires. Fran est d'ailleurs venu jouer, et donc c'était une chance pour nous d'écouter son récit. C'était, je crois, le deuxième spectacle qu'on a accueilli dans notre nouvelle salle, et c'est chouette de le retrouver ce soir.
Ben voilà, il y a un lien avec les deux, avec nos deux invités, puisqu'il y a aussi des ateliers d'écriture.
C'est vrai.
Et donc, voilà, Alexis, est-ce que vous avez animé des ateliers d'écriture ou participé
Oui, participé.
C'est ça, surtout participer.
Oui.
Ça continue, les ateliers d'écriture?
Oui, tout à fait.
Voilà.
Claude Denuzet, qui est super.
Oui. Et voilà, puis il y a beaucoup de musique.
Il y a beaucoup de musique.
Aussi bien classique que pas classique.
Oui, c'est vrai. Ben, cette nouvelle salle, donc le boudoir où Fran a joué, qui existe depuis un an, elle a été conçue avec un cahier des charges très particulier pour une acoustique particulière. Donc tout le son s'amplifie naturellement. Donc on peut mettre des micros, on peut ajouter de la technique, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et donc elle est très fort dédiée à des formes très acoustiques, très épurées. Donc la musique classique a toute sa place. Et puis on a aussi une programmation un peu plus pop-rock. Je vais sans doute le dire tantôt, parce que c'est la chanson que j'ai choisie, mais Aurélie Saada, dont je suis une grande fan, a accepté de venir à la Tricoterie. J'y croyais pas, mais elle a accepté. Donc voilà, ça c'est un des super chouettes concerts qu'on accueille. Il y a Quentin Dujardin, qui est un guitariste classique super. Il y a Lubimov, qui est une sommité, un pianiste russe de 80 ans, qui est déjà venu deux fois. Il y a Lek, qui est un chanteur aussi, qui fait de l'électropop. C'est assez surprenant. Donc voilà, c'est une mixité de genres aussi. On est aussi plusieurs à porter la saison culturelle. Et donc, on a tous nos affinités. C'est aussi pour ça que le projet... On est 100 à travailler à la Tricoterie. Il y a 322 coopérateurs. Donc c'est un projet hyper collectif. Et donc, on sent toutes ces énergies.
Oui, parce que pour agrandir, vous avez ouvert aussi le capital, entre guillemets.
C'est ça, oui. On est une coopérative.
Et je crois que vous avez été étonnée du nombre de souscriptions.
Oui, tout à fait.
J'en fais partie, d'ailleurs.
Moi aussi.
C'est
vrai.
Oui.
Voilà. Non, c'est un projet à soutenir vraiment de tout cœur. Alors, qu'est-ce qu'on écoute comme musique?
Donc, j'ai choisi Bomboloni, qui est une pâtisserie tunisienne. Je pense à mon papa et à mes grands-parents qui sont tunisiens, et donc qui est chantée par Aurélie Saada, cette formidable chanteuse qui viendra à la Tricoterie le 1er décembre.
Je crois qu'elles étaient deux avant, c'est pas ça?
C'était une des deux chanteuses du groupe Brigitte.
Voilà, c'est une des Brigitte.
Une des Brigitte, voilà.
Viens dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier qu'elle a croqué ton cœur et l'a laissé. J'ai des recettes pour oublier des cornes de gazelle, des Monte Carlo, des papas, des dattes et du miel, des roses en chocolat. Pour balayer ta peine, je te ferai des petits plats. Je soignerai ton ventre, chez moi on aime comme ça. Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner. Cette petite chienne, j'en ferai des beignets. Des bomboloni à s'en lécher les doigts. Tu l'oublieras, tu l'oublieras. Je ferai la magicienne sur ta langue et dans ta bouche. Tu reprendras des forces dans la cuisine de la Louve. Mais je te connais trop, demain tu t'en iras. Vers celles qui te font pleurer, tu n'y résistes pas. Je mange dans ta main, je m'en mords les doigts, je garde le chagrin. toi et moi.
Qui passe à la triqueterie, quelle date ce sera? Elle vient en décembre?
Le 1er décembre,
voilà. Et on passe à Fran Kuruma, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ça me fait vraiment penser enfin, aux Juifs errants, hein, puisque vous avez erré de votre pays qui est le...
La Guinée.
La Guinée, en fait, oui. Je confonds avec le Ghana, donc je voulais que vous le disiez vous-même. La Guinée, elle est entourée de quel pays?
Le Mali, la Sierra Leone, le Libéria, le Sénégal, c'est les pays limitrophes.
D'accord.
Et la Guinée-Bissau.
D'accord. Oui. D'accord. Donc, vous étiez en Guinée et vous êtes arrivé il y a 6 ans ici. Le voyage a duré 2 ans. Et c'est ce voyage que vous racontez dans votre spectacle qui s'appelle Notre Soleil, que vous jouerez demain à Nivelles, le 20 octobre au Centre culturel de Dorgem et le 25 janvier à Volubilis, plus beaucoup d'autres dates qu'on peut trouver sur...
Live Diffusion.
Voilà. Et voilà, on est très contents de voir que ce spectacle tourne bien. Vraiment bravo. Alors, on a plein de questions à vous poser. Bon, de quoi parle le spectacle lui-même? De quelle période, en fait, de votre vie?
Le spectacle parle, son nom d'ailleurs, Notre Soleil, ça veut dire mon parcours, mon récit de vie de mon pays natal en traversant quelques pays d'Afrique de l'Ouest jusqu'en Libye et de là aussi les réalités. C'est qu'on ne croit jamais qu'au XXIe siècle, on puisse séquestrer les gens, esclavagiser, molester, violer les femmes et les morts sur le désert, les pratiques aussi et tout ce qui s'ensuit. Et une fois en Europe aussi, après tout ce qu'on a, l'on a vécu, et qu'on soit dans une désillusion totale, dans la poursuite de demande d'asile qui est aussi une torture vraiment psychologique que beaucoup de migrants ne s'attendent pas, et surtout la procédure de Dublin, donc avec tout ce que j'ai vécu, mais aussi ma vie de sans-papier, sans-abri, noir dans les rues de Bruxelles. Donc, Notre Soleil, en un mot, c'est le spectacle de Notre Soleil, c'est l'adaptation théâtrale de mon livre. Déjà, le livre a été écrit et édité depuis 2020. Et à travers ça, j'ai travaillé avec Sandra pour avoir voilà, cette pièce que je joue actuellement.
Alors, vous l'avez écrit au départ sur votre téléphone, c'est ça?
Oui.
Parce que ça, vous aviez un téléphone. Depuis le début, vous êtes parti avec votre téléphone.
Pas le début. Le début, déjà, on dit, c'est notre jargon. Les réalités du terrain nous obligent à quitter d'un pays à un autre. Et surtout, le retour aussi est catastrophique parce que quand on est dans un... Même si on est dans le paradis et que la vie d'une personne est menacée, l'exemple est qu'en 2017, ici en Belgique, je ne savais pas que j'allais me retrouver dans cette insécurité totale et j'avais décidé à un moment donné de partir vers l'Angleterre, comme vous voyez beaucoup de jeunes dans la rue qui souhaitent aussi aller, parce qu'ici, leur vie est menacée. C'est ce que souvent les gens ne se posent pas. C'est-à-dire, c'est la question que les gens ne se posent pas souvent. Récemment, je termine un spectacle, on termine le bord de scène, il y a une dame qui vient vers moi, monsieur. Et si on vous donne de l'argent dans votre pays là-bas, pourquoi vous ne restez pas? J'ai dit dans ma tête, est-ce qu'elle sait pourquoi j'ai quitté?
Mais est-ce non, qu'elle... c'est une de mes questions aussi.
Est-ce que beaucoup de gens se rendent compte? Parce que si le motif même de l'écriture de ce livre-là, c'est quand j'étais au petit château, j'entendais souvent les gens dire, ils prennent des petits bateaux, ils viennent facilement dans notre pays pour encombrer, si c'était facile. Et si vraiment... Ils savaient que beaucoup de gens, si vraiment ils ne se retrouvent pas dans des problèmes dans leur pays, ils préféraient rester là. Parce que si vraiment ça va chez soi, c'est mieux que d'aller ailleurs. Même si on doit aller ailleurs, c'était ça d'ailleurs même dans ma tête. Même si je devrais venir en Europe, ce n'était pas dans ce cadre. Peut-être une bourse d'études, venir faire mes études et puis me retourner. Mais ça n'allait pas être quand même de prétendre. Et c'est ça aussi le deuxième objectif quand j'entendais les gens à la télé, mes frères qui sont en Afrique, qui prétendent que l'Europe, c'est Eldorado. Une fois arrivé, il y a un sac de trésors qui est arrêté. Il faut puiser dedans et puis s'en servir. Il y a les immeubles partout, le train. On fait tout ce qu'on veut. Et pourtant, ceux-ci se rendaient compte. C'est la réalité. Voilà un peu la motivation. Quand j'étais au petit château, les conditions de vie, cette maltraitance psychologique, tout. Et un peu plus tard aussi, sans abri. J'ai décidé d'écrire. J'ai commencé à écrire sur mon téléphone.
Est-ce qu'on peut commencer par le commencement? Donc, vous êtes né au...
En Guinée.
En Guinée.
Oui.
Quelle était votre vie là-bas? C'était quoi votre quotidien? Votre famille? Dans quelle ville vous venez? C'était quoi votre vie?
D'abord, je vaquais à mes quotidiens. Et j'étais avec ma maman. Ça allait vraiment bien. J'ai passé une enfance, je ne dirais pas très gâtée, mais j'étais quand même avec ma maman. La vie, quand même, n'était pas si compliquée avec.
Et vous étiez seul avec votre maman?
Non, j'ai des frères. Et j'étais avec des amis, tout. J'ai fait des études primaires, secondaires. Et aussi, chez nous, on dit primaire, collège, et puis lycée, et puis l'université. J'ai un diplôme de maîtrise en industrie agroalimentaire. C'est après mes études que je me suis retrouvé dans les problèmes. Et il fallait que je quitte parce que j'étais dans l'insécurité.
Et quel genre de problème? C'est juste pour que, vous voyez, on voudrait comprendre et être empathique avec vous et se mettre à votre place, en fait.
Voilà. Je comprends très bien la curiosité de connaître vraiment ce qui s'y passe, pourquoi on quitte.
Pourquoi on prend ce risque fou, en fait?
Je résumerais que ma vie était vraiment en danger. Nous étions trois et d'autres se sont vraiment retrouvés dans de sales problèmes. Et moi, je me suis sauvé, mais il y a d'autres déjà, si je rentre dans les détails, qui peuvent se retrouver aussi, qui n'ont pas eu la même chance que moi. Donc, c'est pourquoi le plus souvent, je réserve cette partie qui fait vraiment que j'ai quitté. Mais j'aimerais vraiment vous dire que mon objectif n'était pas de venir en Europe. Vu que j'avais un diplôme, j'avais le peu de potentiel que j'avais, je voudrais aller vers un pays pour pouvoir travailler, surtout parce que ce n'est pas que venir, par exemple, en Belgique et faire de la mendicité. Parce que pour moi, la mendicité, ça commence par quoi? Le social, qu'on appelle le CPS. Après, le titre de séjour, on te donne chaque fois de l'argent, on t'engraisse. Ce n'est pas ça mon objectif. Ma maman me dit chaque fois, mon fils, au lieu de dire à ton enfant chaque fois, fais ceci, fais cela, il faut être un bon exemple. Et si mon fils me voit, moi, chaque matin, chaque jour, je vais travailler, je reviens. Pour moi, déjà, je lui donne une éducation par là. Donc, la Belgique m'a accueilli ici. Mon devoir, c'est être un bon citoyen. Et être un bon citoyen, c'est payer mes impôts, être parmi ceux qui contribuent, mais pas parmi ceux qui bénéficient de cet impôt et tout ce qui s'ensuit. Donc, mon objectif au tout départ, quand j'ai fini mes études, je rêvais des années d'insouciance. Récemment, je regardais mes photos, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je regardais mes photos là, le jour qu'on a fini les études, tout. Je pensais à être directeur, d'abord commencer à enseigner à l'université et aller plus tard au lycée aussi, comme il y avait souvent les manques de professeurs. Et plus tard aussi, travailler avoir des diplômes qualifiés. J'avais même eu, à l'époque, j'avais eu en 2016, j'ai eu, comment on appelle ça, le Divi du Canada. C'est que j'ai eu une bourse, mais vu le problème que j'ai eu, je n'ai pas pu attendre pour mener la démarche pour aller vers le Canada, pour étudier et puis revenir. Et ça a coïncidé à mon départ, donc je n'ai pas pu.
Et à ce moment-là, dans votre esprit, vous aviez un objectif, un pays particulier ou c'était partir pour travailler simplement?
Au tout début, je pensais à l'Algérie. L'Algérie, parce que là, ils sont en avance vraiment par rapport au domaine d'industrie. Donc, je me disais que si je vais là, je pourrais travailler et puis ne pas vivre comme un mendiant dans la rue ou bien aller travailler dans des milieux qui ne sont pas surtout en lien avec ma formation. Mais les réalités du terrain, quand vous me demandez tout de part, donc je suis venu vers le Mali parce que vu qu'on n'a pas un monde de financement, pour moi, personnellement, je n'avais pas de l'argent où il faut financer. Chaque lieu que j'arrivais, il fallait travailler pour pouvoir aller de l'avant. Et une fois au Mali, les réalités en ce moment, vers l'Azawad, je voudrais passer par là. Mais il y avait le mouvement djihadiste. Et eux, ils avaient besoin des jeunes en ce moment pour leur recruter de force dans le mouvement. Donc, je ne pouvais pas prendre ce risque-là vers l'Azawad pour passer vers l'Algérie. C'était la voie qui était très facile et moins coûteuse. Donc, je suis passé alors par le Niger. C'est pourquoi je parle. Mais les réalités du terrain font que, une fois à chaque arrivée, le départ, c'est-à-dire le retour est catastrophique et il faut aller avec le rythme du système, le système mafieux des passeurs. Donc, il fallait travailler, aller comme ça Parce qu'en ce moment, quand j'ai demandé cette voie-là aussi pour aller vers l'Algérie, on m'a dit qu'il y a des pirates sur le désert qui kidnappent les convois, qui tuent les chauffeurs, qui laissent les gens sur le désert. Et le nombre de morts sur le désert est incalculable. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Libye, avec toutes les réalités que je donne en détail dans le livre et un tout petit peu aussi dans le spectacle. Et pendant le bord de scène aussi, qui est très important, c'est un moment d'échange avec le public. Et je continue jusqu'en, voilà, jusqu'en Europe. C'est comme ça que j'ai fait la traversée.
Donc Libye et puis
L'Italie, à Siracusa. Et de là aussi, j'explique un petit peu, parce que quand on se demande pourquoi il a quitté l'Italie, c'est dans le Schengen quand même. Oui, c'est vrai.
Oui.
Mais comme je le dis chaque fois, comme a été le cas aussi en Belgique, à un moment donné, j'ai décidé, mais c'est grâce à un couple flamand qui m'ont recueilli dans la rue, qui m'ont accepté chez eux. Mais j'ai encore eu aussi une autre expérience de vie. Parce qu'avant d'arriver en Europe, je voyais une haine viscérale contre les personnes homosexuelles. Mais l'expérience était... C'est pourquoi c'est très important. Quand j'entendais au Parlement bruxellois, oui, la tolérance, on peut la tolérer. Au-delà de ça, qu'il y ait des échanges, qu'on échange entre nous. Moi, le fait de vivre chez ces jeunes-là, ces jeunes flamands, chez eux, pour un premier temps, j'avais du mal à prier.
Donc c'était un couple homosexuel,
oui,
c'est ça?
J'ai découvert après que c'est un couple homosexuel. Donc j'avais du mal à prier. Et prier aussi dans la rue, aussi, c'était devenu un autre problème pour moi. Mais un jour, j'ai appelé ma maman, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit, tu as mangé? J'ai dit, oui, j'ai mangé. Tu as prié? J'ai dit, oui, j'ai prié. Et elle m'a dit, j'ai dit, non, ça fait 3 jours. J'ai dit, mais tu n'es même pas arrivé en Europe, tu as abandonné ta religion. Rapidement, je l'ai expliqué la réalité. Elle a dit, si je savais que tu allais penser ainsi, j'allais te jeter dans la poubelle. Ces jeunes t'ont vu dans la rue. Ils n'ont pas pensé que tu es un migrant, tu es un noir, tu es un sans-papier, tu es un voleur, tu es un menteur. Ils ont vu un humain dans la rue. Ils ont recueilli chez eux et ils l'ont accepté. Pourquoi tu ne penses pas ainsi tant qu'il ne te dit pas de devenir comme eux ou de boire de l'alcool ou bien de manger du porc? Elle m'a raccroché. Et plus tard, j'ai compris la coexistence pacifique à travers ces jeunes. Ils ont appris de moi, j'ai appris aussi d'eux. Et il y a eu plein d'échanges. Et aujourd'hui, on est comme une famille.
C'est magnifique comme histoire. Hein, enfin, Joël a déjà vu le spectacle, c'est ça? Donc, elle connaît un petit peu l'histoire. Alors, on essaye de trouver Jean-Philippe. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Par Skype, non. On va essayer par téléphone. Et entre-temps, on va peut-être mettre la musique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique alors?
Fallé, c'est deux chanteurs guinéens, un groupe d'Eggy Fostry, que j'aime beaucoup, qui parle aussi des années, des moments d'insouciance, des jeunes qui quittent le pays pour aller, pour fuir leur pays, pour aller ailleurs. Et puis, ce qu'ils ne s'attendent pas, ce qui est devant pendant la traversée. Et une fois arrivé, donc cette musique résume un petit peu tout ça, quoi.
Ah, alors, on a trouvé Jean-Philippe Daguerre. Oh. Allô? Ah, peut-être qu'il nous entend, mais nous on ne l'entend pas, Henri.
Il recompose le numéro.
Hein? Ah, peut-être qu'on lance la musique entre-temps.
Oui. Là.
Ntambara bon fouet ton gon tambara sans kiriso. Ntasiga, tambara bon fouet ton gon tambara sans kiriso. Abimuna alo pari dollar na États-Unis. Mvanga katanga sang de fin. Bimuna alo pari dollar na États-Unis. Mvanga katanga sang de fin. Nous fambang et timane oumbe. Mfoa saramane mbabe. Fonfa ouma tore nyamane. Wada wawa mameti. Nufamba ngiti mane umbe. Mfoa saramane mbabe. Fonfa ouma tore nyamane. Wada wawa mameti. Nekomba pare wale. Ne traverse pare wale. Traverse pas, va y voir.
passé fut rude, le désert est aride. Les dunes de sable, la perte de biche, perdu Malik. J'ai cru avoir un bon deal, le passeur m'a dit que c'est tout facile, tout près le paradis. Le désert, son visage et sa misère. La mort dans la peau, les charognards, les vipères. J'ai eu si soif que j'ai vu ma pisse. Loin de ma famille, je vis l'enfer, j'agonise. Je m'évanouis. Tu réveilles dans un camp d'esclavagistes. Attaché, séquestré, emprisonné, torturé, balafré, maté au fouet. Cruelle réalité, mourir mon seul souhait. Le prix de mon exode s'avère trop élevé. Le cauchemar se poursuit, la mort rôde. La mer a bouffé Samba et sa troupe. La Méditerranée nous a pris tant de vie. Partir c'est bien, mais pas sans Kaidi. Miahi miyi, mi tampi mi arti. Kumbiyi konton no anini. La wangon no wulbini, mainde den no suti. Mi sepi mi ronki, njare di no wuli. Miahi miyi, mi tampi mi arti. Quitte à finir sans papier, j'en peux plus de voir la femme et finir affamée. Ne pars pas, tu veux t'en aller, trouve un visa. La mère elle t'assassine, la mort t'attendra. Je préfère partir quitte à finir sans papier. J'en peux plus de voir la femme et finir affamée. Ne pars pas, tu veux t'en aller, trouve un visa. Le désert t'assassine, la mort t'attendra.
Voilà, et on va passer alors à Alexis Van Stratum pour Brouillon Intime, qui va se jouer donc au Jardin de ma sœur. Alors, pendant
assez longtemps. Oui, alors on commence le 26 octobre, du 26 au 28 octobre, et puis la semaine d'après, du 2 au 4 novembre.
Voilà, et là, ce sera donc dans pendant le festival donc Bruxelles sur scène.
Ouais,
voilà,
ouais.
Dont on vous parlera la semaine prochaine avec plein de spectacles qu'on aime beaucoup, puisque pendant un mois, pour 25 euros, vous allez pouvoir assister à. En fait, à 15 spectacles, je crois, dans 15 lieux différents.
Ouais.
Voilà, dont.
Dans les brouillons intimes.
Voilà,
tout
donc
à
ça
fait.
Va vous faire 1,50€ la soirée, ça va.
Et ça permet de découvrir plein de choses.
Exactement.
Du coup, dans des très beaux lieux, en plus.
Voilà, c'est ça. Ah, mais le Jardin de ma sœur, j'adore.
Ah,
c'est
oui,
vraiment très touchant.
Vraiment une atmosphère.
Je
ne
sais pas si vous connaissez le Jardin de ma sœur, oui. Non.
Puis il y a Artem Glicksman qui accueille les gens depuis 1994.
Ah, oui, oui.
C'est vraiment un lieu mythique.
Alors, on peut dire où ça se trouve ?
Oui, ça se trouve sur le marché aux poissons.
Voilà. C'est un café,
Oui, c'est tout à fait. Donc, c'est vraiment l'idée du café-théâtre.
Oui.
Donc, du coup, c'est un rapport très intime entre les comédiens et le public. Et il y a moyen de boire un verre pendant le spectacle.
Voilà, c'est ça. C'est très chaleureux. Ouais. C'est un peu à l'ancienne. Hein.
Tout à fait,
le décor
tout à
est
fait.
Un peu.
Oui, malheureusement, c'est un petit peu en voie de disparition, les cafés-théâtres. Et c'est dommage parce que
Il y a le café
que...
de la rue aussi. Je ne sais pas si vous connaissez
ce
genre-là.
Très chouette, ouais.
Dans son jus, comme on dit.
Oui, magnifique.
Ouais,
magnifique.
Ouais, vraiment. Ouais. Et donc là, heureusement, vous n'avez pas un grand décor. Hein,
non. Non, non.
Il y a une chaise, je crois.
Alors, il y a deux chaises et une table.
Oula.
On a vraiment pensé très, très, très minimaliste.
Très bien.
Et puis, c'est aussi un projet qui est né tout de suite après le confinement. Moi, j'étais un peu désespéré dans la deuxième année du confinement au niveau des projets.
Beaucoup de monde.
Je trouvais ça compliqué. Et je n'avais pas du tout envie d'envoyer des dossiers pour jouer le spectacle dans 4 ou 5 ans. Et je me disais, j'ai envie de le faire maintenant. Et du coup, j'ai rencontré les deux jeunes comédiens qui sortent des écoles. Il y a Estelle Crépin qui sort du conservatoire de Mons et Tom Boumerija qui sort de l'IAD.
Et ils sont très chouettes parce que j'ai eu l'occasion de le voir à Avignon.
Alors vous l'avez vu avec Pauline Discret.
Ah, bon.
Parce que Estelle Crépin, malheureusement, ne pouvait pas faire Avignon.
D'accord.
Et donc, du coup, elle a été remplacée par Pauline Discret. Voilà, c'est marrant parce que le spectacle n'est pas tout à fait le même de par la sensibilité des deux comédiennes, mais elles sont toutes les deux formidables.
Alors, quelle est l'histoire ?
Alors, l'histoire, c'est une rencontre de deux jeunes dans un atelier d'écriture. Et ces deux jeunes qui sont tous les deux un peu dans le creux de la vague, et on va découvrir leur intimité, on va découvrir ce qu'ils vivent à travers leurs écrits et à travers les exercices qui sont imposés par le professeur. Et donc, ces deux personnes s'amusent à rejouer toutes les scènes de comment ils se sont rencontrés. Donc, il y a un côté très, très, très ludique, c'est très rythmé. Il y a pas mal d'humour aussi. Puis, bon, les gens nous disent que c'est assez émouvant parce que ça parle quand même de solitude, ça parle des difficultés d'aimer, ça parle des relations toxiques aussi.
Donc on les voit d'une semaine à l'autre, en fait.
Exactement.
Hein, c'est un atelier qui se passe toutes les semaines.
Tout à fait.
Et donc on les voit ou on ne les voit pas.
Oui, ou on ne les voit pas.
Parfois ils viennent, parfois ils ne viennent pas. Comme dans un atelier d'écriture, d'ailleurs, c'est souvent comme ça.
Exactement. Et alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai écrit ce spectacle dans l'atelier d'écriture théâtrale de Thibaut Neve.
D'accord. Qu'on reçoit dans 15 jours, je crois.
Ah oui.
Oui.
Bah, super, vous lui ferez les bonjours. Oui, oui. Et Thibaut, il donne un cours d'écriture théâtrale à l'Espace Mag tous les lundis soirs depuis quelques années. Et donc, j'ai suivi ce cours. Et quelque part, c'était une mise en abîme de ce que je vivais, moi, personnellement. Et en même temps, de plein de questions que je me posais autour de l'amour, autour de mes propres difficultés que j'ai pu avoir dans le passé, mais aussi ce que j'entendais chez mes amis. Donc, il y a beaucoup de vécu dans le spectacle. Après, le spectacle n'est pas directement autobiographique, mais il y a plein de clins d'œil de ce qu'on a vécu dans l'atelier d'écriture. Et ce qui est amusant, c'est que dans les spectateurs qui viennent nous voir, il y a beaucoup de gens qui écrivent aussi ou qui ont participé à des ateliers d'écriture. Et donc, du coup, il y a des petits clins d'œil. Alors, le personnage du professeur a été... On a un peu forcé le trait quand même pour créer du conflit. Donc, on en a fait un personnage assez despote et assez désagréable par moments, ce qui n'était pas du tout le cas de Thibaut Neve, qui est quelqu'un d'absolument adorable. Et donc, et d'ailleurs, il riait beaucoup pendant les lectures, pendant les cours, de tout ce que j'avais pu inventer. Parfois, il y avait vraiment des petits clins d'œil de choses qui avaient été dites pendant le cours.
Ah oui, il se retrouvait quand même dans quelques phrases.
Oui, exactement, exactement. Alors, on a eu la chance cet été, grâce à Fabienne Govarts, qui est donc la directrice de la Clarencière ici à Bruxelles, où on a créé le spectacle.
D'accord.
Et Fabienne a également un petit théâtre à Avignon. Et alors, elle a eu un coup de cœur pour le projet. Et grâce à elle, on a pu aller jouer pendant 6 dates à Avignon cet été. Et c'est chouette parce que voilà, le projet, on a démarré de rien du tout. Et petit à petit, le projet grandit.
Il existe vraiment, en tout cas.
Complètement, complètement. Et puis, on a du monde. Et donc, ça, c'est vraiment
super
chouette.
Et donc, ça vous a donné de faire une suite, autre chose ?
Alors, moi, je travaille également dans le cinéma. Donc, pour le moment, je suis en écriture d'un long métrage.
D'accord.
Et j'écris aussi en parallèle un spectacle musical parce que j'aime beaucoup le théâtre musical. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien cette idée de travailler de façon très très ludique avec peu de moyens, peu de personnes, peu de décors et de pouvoir.
Dans l'air du temps, hein. De toute façon, c'est comme ça.
Mais je pense que la question de la faisabilité est importante quand on a des rêves. C'est bien de penser en grand, mais à un moment donné, c'est bien de se dire aussi comment on va faire tout simplement.
Tout à fait. D'ailleurs, Fran, tu es seul sur scène ou il y a de la musique aussi, je crois.
Oui, il y a la musique, il y a la voix off de Babetida qui. Voilà, comme ma maman, quoi.
Toujours pas de nouvelles de Paris ? Paris ne répond pas, comme dans les films, non ? D'accord. Et je crois qu'aussi, Fran, tu as participé à des ateliers d'écriture.
Oui, avec des braves femmes de la commune Saint-Josse. Et c'était super. J'étais avec Sandra Racco.
Bon, moi aussi, j'ai participé à des ateliers d'écriture.
Jamais.
Elle a juste vu, elle a juste organisé. Voilà. Alors, c'est... Allô ? Ah, bonjour. Bonjour Jean-Philippe, on avait un petit problème pour vous. Ah, voilà. D'accord, ben voilà. Voilà, ben, ce qui marche, c'est le téléphone et c'est super. Donc, merci en tout cas de nous répondre. Nous sommes ici autour de la table. Comme vous savez, il y a toujours des invités. Alors, je ne sais pas si, parce que vous êtes déjà venu souvent à Bruxelles, si vous connaissez la tricoterie. Ça vous dit quelque chose, la tricoterie? C'est un lieu de 2000 mètres carrés avec 8 salles et 99 portes. voilà, un lieu merveilleux qu'il faut que vous veniez visiter quand vous êtes à Bruxelles. C'est... Voilà. Très particulier. Ouais, voilà. On a aussi Fran Kourouma qui est parti de Guinée.
Oui.
Et qui est venu à pied jusqu'ici, à pied, enfin, toutes sortes de. Voilà, jusqu'ici, qui a écrit sur son téléphone son livre et qui joue sa pièce, enfin, qui raconte son passage et puis son actualité. Et puis Alexis Van Stratum qui était aussi à Avignon cet été pour les brouillons intimes, voilà, qui se passent dans un atelier d'écriture. Voilà, je vous ai présenté un petit peu tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler, entre autres, du voyage de Molière que j'ai eu l'occasion de voir l'an dernier à Avignon, que vous venez jouer, enfin non, vous, je ne sais pas si vous venez, mais parce que vous êtes le metteur en scène, hein, là vous ne jouez pas dans le voyage de... Ouais. Alors, votre équipe, et quelle équipe, hein ? Ils sont nombreux, hein ? 8, voilà. 8 avec un décor exceptionnel. Il est beau le décor, hein ? Voilà. Alors, il s'agit du voyage de Molière. Alors, c'est pas Molière qui voyage dans cette histoire. Oui, d'ailleurs, c'est très amusant, mais c'est très intéressant. Parce qu'on vit, en fait, vraiment la troupe de Molière, les créations, comment ça se passe, leurs problèmes, la vie de tournée, enfin, tout ça, quoi. C'était pas facile, hein. Oui. C'est ça. C'est du grand spectacle. C'est du grand spectacle. Oui, voilà. Populaire, familial, voilà. Exactement. Et donc, ils viennent donc le 19 et le 20 octobre, donc maintenant cette semaine, à Volubilis, qui est une très belle salle. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une très belle salle. Voilà. Voilà. Donc on vous a vu dans, Hoffmann, Ortiz, vous l'avez écrit, vous jouez pas dedans, je crois. Le petit coiffeur, écrit, mise en scène, voilà. Vous êtes comme j'ai dit, je pense que c'est un néologisme, mais multi-moliérisé, c'est ça. Voilà. Ah, c'est ça. Bon, déjà avoir des nominations, c'est ça. Mais à ce jour, vous êtes sur combien de spectacles ? Bravo. Anne. Non. On a... Bon, en tout cas, ici autour de la table, on est tous envieux. Hein? Admiratif et envieux, un mélange. Oui. Alors, j'ai eu un très grand étonnement cette année à Avignon. Bon, y a un spectacle que je suis, depuis quelques années, un auteur qui s'appelle Narcisse. Et j'ai été très étonnée de voir que vous avez fait sa mise en scène, parce que c'est toujours des spectacles qui sont basés sur de la technologie. Hein, et c'est ça. Oui. D'accord. Ouais. Je les ai tous vus aussi, donc je sais pas, je pourrais pas vous dire quel est le lien et pourquoi. Voilà, je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'aime vous les deux, et vous et lui, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Oui. Et lui, c'est gastro... Ah oui, oui. Lui, c'est moléculaire, hein, il y a des expériences, ah, c'est ça. Ah, oui. Super. Qu'il intervienne. D'accord. Alors, J'ai une dernière question. Si Molière avait vécu aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il aurait fait une pièce sur la situation mondiale actuelle? Parce qu'en fait, est-ce que c'était social, c'était politique? Je ne sais pas. Oui. Oui. Voilà. Ouais. Ça y est, c'est fini. Ça y est, la ligne n'est plus très bonne. Mais je pense qu'on a bien fait le tour et on pourrait passer toute une émission avec vous. Hein. Mais voilà, promettez-moi que la prochaine fois que vous passez par Bruxelles, vous voudrez être en studio et je vous présenterai les témoins du moment. Et voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Au revoir. Au revoir. Voilà, sacré personnage quand même, vous avez vu un peu l'ampleur de... Et très fidèle, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse, parce qu'il y en a 4 minutes, on va refaire juste un petit tour pour les dates, et puis on va passer la musique d'Alexis, pardon. Alors, on peut rappeler pour Notre Soleil, on va voir sur le site, pour toutes les dates, c'est live.
Oui, live diffusion.
Voilà.
Oui, pour toutes les dates, voilà.
Mais en tout cas, demain à Nivelles, le 20 au Centre culturel d'Auderghem et le 25 janvier à Volubilis. Pour les brouillons intimes, c'est du...
Du 26 octobre au 4 novembre. Et les informations sont sur le site lejardindemasseur.be.
Voilà. Et à la tricoterie, alors entre autres, Babzouz, donc la chorale judéo-arabe, il y a ce dimanche. Mm-hmm. Et puis pour le reste, le programme, c'est un bottin de téléphone. Donc il faut aller sur le site de la tricoterie pour vous entendre et vous voir. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. C'était une très chouette émission. On va écouter d'abord la musique d'Alexis qui est...
Il est 5h, Paris s'éveille, mais la version de Anne Pierlet.
Oui.
Et Anne Pierlet, c'est une chanteuse flamande qui fait... elle a son propre répertoire que j'aime vraiment beaucoup. Mais elle fait aussi souvent des reprises.
Oui.
Et là, elle a complètement réinventé le morceau de Jacques Dutronc. Et je sens qu'elle s'amuse. Et aussi, elle est comédienne à la base. Elle a fait une école de théâtre, Anne Pierlet. Donc, du coup, elle s'amuse dans sa manière de jouer dans ce côté.
On a trouvé cette version-là. Voilà. Et alors, on va finir avec la chanson que Jean-Philippe Daguerre avait choisie, qui est Foule sentimentale d'Alain Souchon. Au revoir tout le monde.
Au revoir, merci.
Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures.